Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Studio Zef 91.1 FM. Aujourd'hui, nous allons parler de trois films, nous allons parler de Goutte d'or, de L'homme le plus heureux du monde et Tout de moi ne disparaîtra pas, qui sera projeté en séance unique le mercredi 22 mars. Pour commencer, nous allons tout d'abord parler de Goutte d'or, le dernier film de Clément Cogitor. J'ai pour en parler avec moi Martine. Bonjour Martine.
Bonjour.
Vous déposez ici le métal, bijoux, ceinture, téléphone.
Et pourquoi ?
À cause du magnétisme.
Manu.
C'était son petit nom.
Manu est avec nous maintenant.
La dernière fois, je pensais avoir trouvé.
Madame, médium, médium.
Mais là, je sais plus du tout comment te faire. Plus tu leur mens, plus ils reviennent.
Ça, c'est pour toi. J'ai mis 300.
Cool.
Normal, ça marche bien.
Oh ! Mais vous faites quoi, putain ?
Ah,
c'est
ma mère là!
Ouais,
non!
Agitou!
Il
est avec les kings, je suis
plus!
Tu as sa hâte! On va dire à la rue!
Oh! Oh, tu fais quoi là?
On m'a manipulé.
Hein? Vous êtes honnête! Du sang.
Je compte.
Laisse le pilk.
Le peuple marocain maître la chitan.
M'rad le chitan, fil ouk chitan.
Je connais les mecs.
L'argent à l'ensach et à la tchazim.
Tu as vu le film et tu connais aussi très bien Clément Cogitor. J'aimerais que tu puisses en parler un petit peu d'abord, qu'on puisse recontextualiser qui est ce réalisateur qui prend de plus en plus d'importance dans le cinéma français. Et voilà, nous parler un peu de ses films et de ses thématiques pour qu'on puisse encore mieux comprendre son dernier film qui est Goutte d'or.
Alors Clément Cogitor, je ne connais pas très bien, mais j'ai déjà vu quatre œuvres de lui. C'est un photographe, il fait des installations d'art contemporain, il est professeur aux Beaux-Arts, cinéaste, metteur en scène, plasticien. Enfin, il ne se consacre pas qu'au cinéma. Il n'a pas fait une école de cinéma, mais il explore l'art dans toutes ses dimensions. Si on le décrit comme un cinéaste, on peut dire que c'est un cinéaste des marges. Et c'est quand même très rare. En tout cas, c'est aussi son fil conducteur. Bon, c'est pas le seul, mais... Au niveau de la filmographie, on avait passé à cinéphile Ni le ciel ni la terre et Bragino. Ni le ciel ni la terre, c'était en 2015 avec Jérémy Régnier. Ça se passe dans une vallée en Afghanistan, un poste frontière où on assiste à la confrontation des hommes soldats avec les habitants de cette vallée. Et peu à peu, des soldats disparaissent mystérieusement. Un premier abord du mystère, on va dire, et de la disparition. Ensuite, il avait mis en scène Les Indes Galantes à l'Opéra de Paris.
Il y a eu un documentaire sur sa mise en scène d'ailleurs qui a été fait.
Oui, voilà. Où là, il introduisait un groupe Crump, ça s'appelle comme ça, qui sont des danseurs du ghetto noir de Los Angeles, où ils filment un peu, c'était à la suite de violences policières, une danse qui exprime un peu les tensions dans le corps, le physique, la politique, le social, etc. Et le film donc, qu'on a passé aussi à Cinéphile, c'est Bragino. Un film assez étonnant qui se passe dans la forêt sibérienne sur une île où deux familles de vieux croyants orthodoxes depuis le 19e, fin 19e, se retirent de la civilisation et vivent en autarcie, en conflit d'ailleurs l'une avec l'autre. Et donc là, c'est un film qui peut paraître un documentaire, mais qui est surtout une immersion dans un monde familial, ancestral, où la nature fait partie du vivant. on voit des enfants, etc. Donc là, c'est vrai que en voyant un peu les films et les thématiques qu'il explore, on comprend sans doute mieux Goutte d'or, qui, si on le voit pour la première fois, bah, c'était ton cas, Colin.
Oui, c'est le premier cogiteur que j'ai vu.
Voilà. Peut paraître un peu... je sais pas, tu peux dire aussi ce que t'en as pensé.
Oui, disons que moi, le film, je vais peut-être pas apprécier comme peut-être j'aurais dû l'apprécier si je connaissais la filmo de Cogiteur d'avant, parce que effectivement, je pense que moi, c'est ce que j'ai ressenti. On en parlait un petit peu en off avant l'émission. C'est ce que j'ai ressenti dans le film. Moi, j'ai vraiment l'impression que je trouve qu'il manquait peut-être des clés pour pouvoir comprendre le film. Dans toute sa globalité, sa complexité, pas que le film soit forcément difficile à comprendre, mais parce que je pense qu'il aborde des thématiques d'une certaine façon qui sont sûrement déjà abordées dans d'autres de ses films et qui permettent beaucoup plus peut-être de s'immerger dans ce qu'il veut dire, dans ce qu'il veut montrer, dans les sujets qu'il a envie d'aborder. Et c'est vrai que peut-être ça m'a un peu manqué et que je m'attendais sûrement à voir un film qui n'était pas celui qu'il avait envie de faire, je pense, par rapport au sujet de départ qu'est La Voyance. Mais alors du coup, on parle du film, mais voilà, si on peut un peu résumer Goutte d'or un peu plus précisément, justement, pour savoir de quoi retourne le film.
Ouais. Par rapport aux thématiques qu'il a déjà développées, là, on retrouve vraiment celle du mysticisme, du fantastique, de l'irrationnel, comme il dit, de la croyance. Je ne vais pas faire un récit du film parce que justement il a une conception du récit qui est assez particulière, qui ne montre pas des personnages qui évoluent avec une narration, un début, une fin, mais des choses qui s'entrecroisent. En fait, il aime bien dérouter les spectateurs. Et en gros, le film, je ne vais pas tout révéler parce que ce serait dommage. Ça se situe donc dans le quartier de la Goutte d'Or, un quartier qu'il connaît très bien puisqu'il y a habité quand il n'habitait pas à Berlin. Donc on découvre ce quartier, il nous emmène dans des coins où il y a des travaux, où il y a des parkings, des terrains vagues, des caves. C'est un film qui se passe surtout dans un univers nocturne. Dans l'obscurité. On n'oublie pas qu'on est dans Paris, mais on est quand même dans un hors-champ de Paris, finalement, à la Goutte d'Or.
Oui, il y a justement, je trouve, le film met en avant le fait que Goutte d'Or est presque un autre monde, en fait, à l'intérieur même de Paris, avec presque ses propres codes, sa propre langue aussi, quelque part, vu que le film ne parle pas entièrement français. Il y a beaucoup, comme tu dis, il y a tout un rapport avec la langue, la frontière, le rapport entre deux... entre deux langues différentes, justement, qui se croisent. Voilà, tu avais parlé de ça par rapport à ces autres films. Justement, comment, toi, tu trouves qu'il l'exprime dans celui-là par rapport aux autres, cette thématique de la langue, justement ?
Le héros du film, en fait, s'appelle Ramsès. On découvre qu'il a un père qui est joué par Ahmed Ben Aïssa, qui est mort le jour de la première à Cannes. C'était quand même une façon de renouer avec le film, qui était assez étonnante. Parce que justement, le film, il parle de Ramsès, marabout, mage, magnétiseur, on ne sait pas très bien, qui va donner aux gens qui viennent le consulter un lot de consolation, en décrivant la personne, en parlant avec le mort. Il rentre en contact avec le mort et il traduit quelque chose du mort à la personne qui vient le consulter. Donc c'est assez déroutant et finalement on découvrira un peu la supercherie, mais beaucoup plus tard. Cogitor ne nous donne pas les ficelles et les clés tout de suite. Et donc ensuite on circule dans Barbès, la Goutte d'Or, où on voit que là du coup il y a tout un réseau de médiums et que Ramsès est en train de piquer le marché.
Oui.
Tu nous voles le marché, ils disent, t'as qu'à rester avec les Français, les Russes, les Américains,
les touristes,
nous on s'occupe des autres.
Oui.
Parce que son petit commerce marche très bien. Il fait des voyances en individuel ou dans une salle en collectif.
Oui.
Et puis, bon, ça, c'est une partie du film. Et puis, à un moment donné, tout va se dérégler à partir d'un cambriolage dans son cabinet. Là, il y a l'irruption d'une bande d'enfants des rues qui viennent de Tanger et qui viennent le voir pour retrouver un enfant voleur qui aurait pris un trésor, on a l'idée du trésor. Et là, la magie va opérer différemment. Donc, en bref, c'est compliqué d'en parler sans dévoiler.
Oui. Je pense qu'on peut s'arrêter là dans la description du film, je pense qu'on en sait déjà pas mal.
Ouais. C'est-à-dire que là, du coup, le personnage se révèle d'une autre façon. L'autre façon étant qu'en fait, il a une vision. Et on retrouve en fait les racines de magiques de ce personnage à travers déjà le père, les enfants avec qui il va avoir un rapport presque de père aussi, puisqu'il va s'occuper d'eux. Voilà. Et c'est à travers ses enfants aussi, tu parlais des langues, qu'il va parler arabe.
Oui, qui voilà. va parler de sa langue. Et ce que j'aime bien aussi avec ce que j'en ai parlé aussi, mais ce que j'aime bien avec ses enfants, c'est qu'ils ne sont pas montrés comme des enfants pendant une grosse partie du film, dans le sens par la condition dans laquelle ils vivent. Ce sont des personnes qui survivent et qui sont empreintes d'une grande violence en elles. Mmh. Et le film, via la magie, via la voyance, redonne un peu une âme d'enfant à ces mineurs qui sont obligés de perdre, en fait, dans le milieu dans lequel, et les conditions dans lesquelles ils vivent. Et voilà, je trouve qu'il y a une certaine innocence dans le film qui intervient dans quelque chose d'assez violent et important, qui m'a pour le coup assez charmé de ce point de vue-là.
D'ailleurs, quand on voyage un peu sur YouTube et qu'on voit la sortie du film avec les enfants à Cannes, etc., on sent entre Cogitor, Karim Leclou,
oui, qui fait Ramsès.
On en parlera un petit peu.
Ouais. Ouais.
Et ces enfants, une vraie chaleur, enfin quelque chose de très, très, très fort.
On peut peut-être justement conclure avec Karim Leclou un peu, parce que ça fait déjà... On a parlé des films déjà depuis une petite dizaine de minutes.
Ouais.
Karim Leclou, qui est un acteur qui se fait voir, qu'on voit de plus en plus dans le cinéma français. Mmh. Donc voilà, c'est un acteur qu'on a vu et qu'on va continuer de voir de plus en plus, je pense.
Et là,
voilà.
C'était son premier long métrage. C'est vrai que le film repose beaucoup sur lui.
Oui.
Et c'est impressionnant, je finis là-dessus, c'est impressionnant de le voir parce qu'il penche un peu la tête en gardant les yeux directs sur un regard direct. Et c'est un mélange d'humilité, de fuite et en même temps de grand contact. Voilà, donc c'est pas un documentaire, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un film qui est très documenté, c'est-à-dire que le quartier est un quartier que le réalisateur connaît par cœur. Il s'est documenté sur les enfants, etc., et sur les différentes communautés. Et avant de faire le film, il a quand même rencontré les bandes locales, les petits commerçants, le commissariat, etc., pour pouvoir introduire la caméra. Mmh. Donc c'est un film documenté, mais ça reste une fiction.
Oui, effectivement, il apporte beaucoup d'aspects de fiction, notamment dans la mise en scène, qui je trouve n'est pas du tout documentaire, comme pouvaient l'être, je pense, des films comme L'Entre ciel et la terre. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai l'impression qu'il avait, dans sa façon de filmer, une façon un peu plus peut-être documentaire que Goutte d'or n'utilise pas. Mais il va falloir que je m'y plonge beaucoup plus dans la filmographie de ce jeune, encore jeune réalisateur. Et donc merci beaucoup Martine d'avoir parlé du film.
Si vous avez envie de vous sentir un peu déstabilisé, mais tout en restant dans une cohérence, et d'aller visiter un peu les croyances. Et la goutte d'or,
là, exactement.
Qui va disparaître dans pas longtemps d'ailleurs. Voilà, allez-y.
Voilà, le film sera disponible dans la programmation de Cinéphile, donc au cinéma Les Lobbies, à partir du 16 mars à 18h. Voilà, allez-y, nombreux. On poursuit cette émission avec les deux autres films dont on va parler. Tout d'abord, Tout de moi ne disparaîtra pas, qui sera du coup projeté en présence de la réalisatrice et en partenariat avec Europe Ensemble. Et du coup, avec moi pour en parler, j'ai Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Oh.
Не постала я з праху, і в прах не обернусь. Не зійшла я із неба, і до неба не верну. Бо сама стала небом, як кварцеве берло. Бо сама стала ґрунтом, як чорнозиму єресь. Не втекла я із пустки, і не вернусь назад. Крім самої себе, я далі не знаю. В напутній легенді вітру, кристалічності скал, я тут сама себе по крупинках збираю.
Homin kilkakrotnie wzywał do swojego mieszkania policję i wskazywał rozmaite zakamarki, w których rzekomo Żydzi się ukryli.
Takim samym mijamy się wzrokiem i ten sam przepala nas wstyd.
Ach, taką bardzo małą chwilkę. Ach, taką bardzo małą chwilkę.
Représente effectivement Europe voilà. Ensemble.
Donc ouais, si tu peux un peu te présenter sur...
Ah oui, bah, je préside cette association ouais. qui fait des partenariats réguliers avec Cinéphile, et j'en remercie Cinéphile. Et ce film, effectivement, qui nous emmène dans la Pologne des années 20, années 30, 40, dans le cadre du Printemps des Poètes, a donné lieu justement à ce partenariat avec l'association. Donc tu as parlé d'une réalisatrice oui. qui sera présente, elle s'appelle Johanna Grudzinska, donc elle est franco-polonaise. Elle a fait un film qui était très important il y a quelques années, un autre documentaire qui s'appelait Révolution École, sur les utopies éducatives des années 20 aux années 30. Donc elle s'intéresse beaucoup à cette période. Et là, elle s'intéresse particulièrement à une poétesse juive polonaise qui a eu une trajectoire assez fulgurante, très brisée par l'assassinat en 1944 par les nazis. Elle était née en 1917, donc elle est morte à 27 ans. Une poétesse dont elle retrace à la fois la vie et l'œuvre.
Oui, oui, oui. Et donc le documentaire est assez... assez singulier, je trouve, dans sa façon d'être monté, d'être narré, parce qu'on est à la fois dans quelque chose d'historique sur la vie de cette poétesse, et en même temps quelque chose de très au niveau des sens, au niveau de comment ça a été ressenti, mais tout ça est exprimé via juste des séquences d'images ou avec de la simple musique ou parfois juste des silences.
Des silences et aussi des corps en mouvement, des danses et des récitations de poèmes, parce qu'on entend beaucoup la poésie qui est dite par des jeunes femmes d'aujourd'hui qui sortent d'incarnation de Johanna, de celle qui s'appelait Susanna Gijinjan. Et donc, effectivement, la narration part de son assassinat et remonte peu à peu le temps. Hein, c'est une narration à rebours vers sa prime jeunesse, où on découvre que, justement, dans les années 1920, elle avait déjà une maturité incroyable dans sa poésie, dans sa manière sensuelle d'évoquer la femme, le corps de la femme, le sang menstruel, enfin des choses d'une modernité qui font écho aujourd'hui à des combats d'aujourd'hui. Et il n'est pas anodin de voir que ce film se termine en fait par des manifestations pour la liberté des femmes, pour le droit à l'avortement, qui ont marqué les mois derniers, les années dernières en Pologne, face à la majorité conservatrice qui veut en limiter le droit.
Oui, donc c'est tout à fait ça. C'est un documentaire qui est à la fois historique et en même temps qui s'ancre complètement dans nos problématiques actuelles.
Alors en plus ça se passe donc dans ces territoires qui aujourd'hui sont encore marqués par la tragédie de l'histoire. Hein. Ça se passe entre la Pologne, mais aussi l'Ukraine, la Russie. Elle navigue entre tous ces territoires. Voilà, donc c'est vraiment une personnalité très très attachante qui nous est révélée par ce film. très performatif en fait, hein, parce que comme je disais, ces jeunes femmes polonaises qui sont mises en scène par la réalisatrice, tout en donnant, comme tu l'as dit, voix au chapitre, aux spécialistes de son œuvre, à des historiens. On retrace évidemment son parcours sur les lieux de mémoire qui ont marqué sa courte destinée. Voilà, donc c'est vraiment un film très intéressant avec plusieurs entrées possibles. Et moi, je trouve que, enfin, en tout cas, à Nous à Europe Ensemble, on est très attaché à donner aussi une image de l'Europe sur la culture, sur sa mémoire, son passé. Et donc, c'est un film qui nous permet d'entendre aussi la langue polonaise. Hein. Mm-hmm. La Pologne est aujourd'hui un pays qui compte, alors même s'il y a des polémiques autour de son rôle dans l'Union européenne, mais c'est un pays qui est un des principaux pays maintenant de l'Union européenne et qui est aux premières loges là, aujourd'hui dans la guerre contre l'Ukraine, enfin, de la Russie contre l'Ukraine. Hein.
Oui, donc exactement, pour toutes ces raisons, le film est intéressant et aussi, bon, on l'a déjà dit, mais le film sera montré dans le cadre du Printemps des Poètes 2023. Et moi, personnellement, je trouve que ce documentaire est chouette parce qu'il m'a fait découvrir une poétesse que je ne connaissais pas du tout et qui effectivement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, montre à quel point elle était en avance sur son temps dans les thématiques qu'elle abordait. Il cite un poème qui s'appelle Centaure dans le film, qui je trouve est très évocateur et très fort sur ce sujet. Ouais. Est-ce que toi tu connaissais un petit peu cette poétesse?
Je ne connaissais pas cette poétesse, je l'ai découverte en découvrant le documentaire. Voilà.
Donc ok, super. Et bah du coup, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur ce film pour le conseiller à nos auditeurs de pouvoir le voir le mercredi 22 mars.
Je pense que c'est en tout cas c'est un film qui est peu distribué, qui est un film c'est une découverte qu'on je conseille vraiment aux spectateurs de venir justement se risquer à découvrir un film qui n'a pas été porté par la presse parce que il n'a pas bénéficié d'une grande sortie médiatique, mais c'est un film qui est vraiment recèle des petites pépites et qui nous emmène vraiment vers la Pologne et vers la poésie surtout.
Merci beaucoup Jean-Marie d'être intervenu sur le film. On va se retrouver très vite de toute façon pour parler du film suivant. Donc le film Tout de moi ne disparaîtra pas sera donc projeté au cinéma Les Lobbies le mercredi 22 mars en présence de la réalisatrice Joanna Krudzinska. Voilà, on est très content de pouvoir la recevoir, de pouvoir recevoir une réalisatrice polonaise et nous parler à la fois de la Pologne et de cette poétesse qu'elle connaît très très bien.
Alors, je précise pour situer un petit peu Joanna Krudzinska, mm-hmm. que parallèlement à son travail de documentariste, c'est une femme qui travaille dans le casting. Par exemple, elle a beaucoup travaillé dans le casting d'un film qui s'appelait La Douleur, le film de Finkiel qui racontait l'histoire de Marguerite Duras au moment de l'occupation. Voilà, c'est quelqu'un qui participe aussi au rendez-vous de l'histoire régulièrement à travers le prix du documentaire. Elle fait partie du jury.
D'accord, très bien. Et bien, super, ça sera en terrain familier du coup.
Voilà, si on veut.
Merci beaucoup Jean-Marie. On enchaîne tout de suite avec le troisième film dont on va parler dans cette émission, L'homme le plus heureux du monde de Teona Strugar Midzewska, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui sera du coup aussi projeté en une séance spéciale le samedi 18 mars à 16h, qui est en présence de Anne Madelin, une spécialiste de l'espace post-yougoslave, qui pourra nous mettre un peu en contexte le film. Mais du coup, justement, pour pouvoir parler de L'homme le plus heureux du monde, en plus de Jean-Marie, je reçois deux personnes qui sont venues à la première émission de cette saison. C'est Fanny et Hervé. Bonjour Fanny.
Bonjour Colin.
Bonjour Hervé.
Bonjour Colin.
Šta je sreća ako je nemamo kome prenijeti?
Hajde da se zabavimo.
Reci mi, jesi radio ovo radio?
Ne, ovo mi je prvi put.
Aha, ok.
Pitanje broj 1. Koja je vaša omiljena boja?
Ljubičasta.
Plava.
Pitanje broj 2. Koje je vaše omiljeno godišnje doba?
Proljeće.
I moje je proljeće. Živimo u istom gradu, slični smo godina, oboje smo nesretni.
Ja sam sretna.
Šta? Što lažiš?
Ili problem da ja promijenim partnera, ali postoji ta mogućnost možda?
Sada?
Da. Ne. gluposti. Što ti hoćeš od mene?
Da sam ja najsrećniji čovjek na svijetu.
De quoi parle le film? Est-ce que quelqu'un ici peut me, un petit peu me résumer un peu l'histoire du film rapidement, de manière succincte?
Si, l'histoire du film, en fait, ça évoque évidemment le conflit de la guerre en ex-Yougoslavie, mais ça ne l'aborde pas d'une façon directe. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce film, au fond. C'est que d'abord, il y a toute une mise en scène dans comment on appelle ça ?
C'est pas speed dating.
Speed dating, c'est ça. Où des jeunes gens doivent se rencontrer pour savoir s'ils vont pouvoir faire affaire dans un...
Tout à fait jeune.
Plus ou moins jeune.
Plus ou moins jeune, c'est vrai.
Plutôt 40 ans.
C'est vrai. En tout cas, voilà, ils doivent se rencontrer en couple. Et c'est un aspect très, très kitsch, très théâtral, avec les blouses roses, etc. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu parce que, au fond... voilà, il y a un décor, et derrière ce décor, en fait, il y a une histoire de vie de deux protagonistes, en fait, qu'on rencontre de façon plus approfondie, et qui vont délivrer petit à petit, comme ça, de façon inattendue, on s'y attend pas du tout au départ, des moments de leur vie en lien avec la guerre, comme un traumatisme de guerre qui est resté évidemment en eux. Et ça c'est quelque chose tout à coup qui fait monter l'émotion, quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette subtilité, en fait, que derrière le décor, il y a quelque chose qui nous touche absolument. Et je trouve que ce film, d'ailleurs, nous fait osciller sur des tas d'émotions différentes. Mmh. Le titre « L'homme le plus heureux du monde », le film démarre sur son visage. On se rend très vite compte qu'il n'est pas très heureux, voire même assez désespéré. Et voilà, il y a une plongée directe, en fait, dans quelque chose d'émotionnel, tout de suite. Puis ensuite, on passe au décor, et puis on ne sait pas très bien ce qui va se passer. On est un peu brinque-ballé. Moi, plusieurs fois, en regardant, je me suis dit, mais... où est-ce que ça nous mène ? Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre ? Mais voilà, ça débouche sur quelque chose d'une humanité absolument incroyable qui nous touche au plus profond, en fait, de nos émotions sur ce qu'un conflit, en fait, peut engendrer dans des vies, quoi. Et ça, je trouve qu'on a beau, en entendre parler, chaque fois qu'on redécouvre une nouvelle histoire, c'est comme si c'est la première fois, en fait, qu'on était face, en fait, à ce que ça imprime, quoi, dans une vie, d'être face à la guerre.
Moi, je rajouterais juste qu'il y a effectivement ces deux protagonistes qui sont essentiels, mais qu'il y a toute une troupe autour de personnages, que le film est truffé aussi d'anecdotes, d'humour, souvent un humour noir, mais quand même d'humour. Et c'est un film assez vivant qui n'est pas uniquement fondé sur la relation de ces deux personnages qui sont évidemment essentiels au film. Voilà.
Et il y a aussi une montée dans la narration très paroxystique. Mmh. Peu à peu, on va vers l'explosion, on va dire, d'un drame intime qui se révèle peu à peu à nos yeux. Et c'est très touchant, c'est effectivement. Et on partage les émotions des deux personnages progressivement jusqu'à un climax.
Oui.
Qui est une scène assez extraordinaire, quelque part, à la fois théâtrale, mais en même temps tellement vibrante de vie et d'humanité, surtout, que c'est ça qui m'a vraiment marqué, moi.
Mais c'est comme si, en fait, on se rendait compte que ces deux personnages, en fait, ils ont envie de s'en sortir, ils ont absolument envie de s'en sortir de cette histoire de guerre, et que, voilà, en surface, ça ne se voit pas. Et puis on approfondit, et on tombe, en fait, dans ces territoires, à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, qui sont restés extrêmement impactés. Ça, c'est très subtil, comment c'est amené. Hein.
Alors évidemment, ce film qui fait écho à la situation propre à la Bosnie-Herzégovine, qui est marquée bien sûr après la fin de la guerre, c'est 1995 avec les accords de Dayton, qui fait qu'il y a un pays qui est séparé tout en étant uni, en fait, puisqu'il y a d'un côté une fédération croato-musulmane et de l'autre côté la Republika Srpska. les Serbes qui sont toujours un peu à part, qui se regardent en chien de faïence avec l'autre partie de la Bosnie. Ils ont un système politique complètement aberrant avec une présidence tournante tous les 6 mois, avec des blocages permanents sur la manière dont on... Donc c'est, la sortie de guerre, elle a eu lieu, mais elle est toujours en cours, en fait.
Ouais, c'est toujours sous-jacent.
C'est toujours sous-jacent. Ouais. Et avec les tensions qu'on connaît aujourd'hui en Europe, avec la proximité de la Serbie avec la Russie, le dirigeant de la Republika Srpska est tenté de jouer son va-tout pour essayer d'imprimer à nouveau une politique extrêmement hostile à l'autre partie de la Bosnie. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que parce qu'on a évoqué Anne Madelin, qui est donc une historienne qui travaille à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, qui est donc une spécialiste de la Bosnie-Herzégovine. Et elle viendra, je pense aussi, apporter un éclairage par rapport à la politique, par rapport à l'histoire et à la mémoire de ce conflit.
Je pense qu'effectivement, c'est, voilà, on a, je le reprécise, mais le film est aussi en partenariat avec Europe Ensemble, aussi encore une fois, et donc la rencontre avec Anne Madelin se fera dans ce contexte. Et je trouve qu'effectivement, avoir quelqu'un qui puisse nous éclairer sur le sujet va encore plus renforcer la force du film, parce que je trouve que il y a quelque chose, vous parlez justement que c'est un film qui se passe après conflit, il y a tout cet aspect où justement on est au début du, enfin presque le début du film, et quand on commence à rentrer dans ce speed dating, on ne se doute pas en fait des tournures que va prendre la suite du film au fur et à mesure. Et c'est ça que moi j'ai vraiment apprécié dans le film, c'est toute cette montée en tension qui va se faire au fur et à mesure où on passe un peu, au début on est, si on accepte la scène d'ouverture, on est presque, on sait pas bien dans quel film on est, mais ça ressemble un peu à une comédie, quoi.
Oui,
et
burlesque, oui.
Et il y a toutes ces rencontres des divers speed dating qui sont
les questions complètement stupides qui sont posées aux différents, enfin aux couples qui doivent normalement se trouver, hein.
C'est très étrange.
Et même voilà, cette relation de ce couple, enfin de cette rencontre dans speed dating qu'on va voir au début du film et qui va mener un peu tout ce qui va se passer ensuite, elle est aussi un peu comique au départ, parce qu'on est face à deux personnes assez différentes, très clairement. Et au fur et à mesure, la peur, la tension, la peur et la méfiance se glissent petit à petit dans cette rencontre. Voilà, là, je pars surtout de la scène d'introduction, mais que je trouve assez puissante.
Et les organisatrices sont largement débordées complètement, par la manière dont ça tourne.
Et le film aussi est assez intelligent de pas être trop descriptif dans les enjeux qu'il a. Et donc c'est super pour une narration dans le film, parce qu'on est vraiment face à un film de fiction, mais qui effectivement aborde des choses importantes.
Alors moi, ce que j'ai aussi aimé, c'est la manière dont ils évoquent de façon extrêmement par petites touches ce qu'a été le passé de cette guerre. Et notamment, il y a une scène extraordinaire à la cantine où ils disent finalement c'était meilleur ce qu'on mangeait dans le siège avec l'aide humanitaire qui nous arrivait, que là vraiment c'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc. Mais ce qu'on peut rappeler, c'est que cette réalisatrice, Teodora Strugar-Mitievska, a été la réalisatrice d'un précédent film qu'on avait passé à Cinéfilm qui s'appelait... Dieu existe, il s'appelle Petrunia.
Oui, absolument.
Et qui était un film aussi très satirique sur la Macédoine du Nord. Elle est macédonienne, hein, mais elle a tourné à Sarajevo avec des acteurs de Sarajevo.
D'accord, effectivement, je pense qu'il faudrait que je puisse le visionner ce précédent film.
Ah, Petrunia, c'est vraiment savoureux. Vous vous rappelez?
Oui. Il doit y avoir sûrement des points communs entre les deux œuvres. Mais...
Dans le ton.
Ouais.
Dans le ton, oui.
Ce qui est effectivement ce côté satire, malgré la violence des propos, de la thématique du film, ce côté satire reste toujours à être présent et à mon sens en tout cas, à ne pas piétiner le film et l'empêcher d'avoir une force évocatrice, quoi. Mais voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le film.
Moi, juste souligner que, justement, sur cet aspect post-guerre, post-Yougoslave, c'est intéressant de noter que dans les pays qui sont producteurs, coproducteurs, il y a quand même la Macédoine, la Slovénie, la Croatie et la Bosnie. Donc, il y a aussi la Belgique et le Danemark, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'anciennes... pays
de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, voilà.
C'est intéressant qu'ils aient participé tous à la création de ce film. Quand même.
Ouais.
Oui, peut-être dire aussi que c'est un film qui finalement est très soutenu. Moi, j'en ai entendu parler sur les ondes. Donc, c'est vrai que moi, je m'étais posé cette question parce que c'est un film qui bouscule. On ne sait pas toujours très bien où se situer. Suivant les moments de film, on ne sait pas très bien quelle émotion on peut avoir, etc. Donc, c'est toujours subjectif de choisir un film pour le montrer au public. Je me disais, bon, est-ce qu'on peut montrer ça ? Puis finalement, oui, je vois. En fait, il est très, très soutenu.
Merci beaucoup d'avoir parlé de ce film et de Tout de moi ne disparaîtra pas et de L'homme le plus heureux du monde. Merci à vous trois. Et on se retrouve tous dans 2 semaines pour une nouvelle émission pour parler encore d'un tas d'autres films. Allez, bonne journée, bonne séance. Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.